Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans Carrément Immo. Vous le savez, c'est l'émission dans laquelle je reçois deux acteurs de terrain qui me font part de leur expertise, qui viennent croiser leur regard sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, on va faire un focus sur les entrées de ville commerciales. Alors, on les connaît pour leurs zones d'activité et leurs enseignes nationales, mais on les connaît moins comme une réserve foncière stratégique pour l'aménagement de demain. Et pourtant, 1,6 million de logements, 15 000 hectares de foncier économique, 10 000 hectares de renaturation, c'est ce que révèle le tout premier baromètre signé ICAD et CET. Et justement, on va le décortiquer, ce baromètre. On va parler des tendances avec mes deux invités. Christophe Lagnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint donc de la CET. Vous êtes une filiale à 100% de la Caisse des dépôts, hein.
Filiale à 100% de la Caisse des dépôts, premier cabinet de conseil au territoire en France.
Voilà, tout simplement. Et puis, Pierre Mignon, bonjour, directeur
bonjour.
Des grands projets pour ICAD Promotion. Alors, ICAD, vous êtes promoteur, mais vous êtes aussi une foncière. Il y a une foncière qui est adossée au groupe.
Exactement, double casquette, une foncière à majorité tertiaire, mais aussi avec d'autres diversités d'actifs. Et le promoteur, nous, on est engagé dans la transformation urbaine.
Donc, ça vous permet, j'imagine, de traverser la crise, d'être plus solide en tout cas.
Exactement, avec l'ambition en plus d'être de plus en plus un opérateur intégré, donc de déployer les deux casquettes sur les différentes étapes de la transformation de la ville.
Alors, on va faire tout de suite un focus sur ce baromètre, donc première édition. Pourquoi avez-vous voulu réaliser ce baromètre? C'était quoi l'objectif principal derrière donc cette cartographie nationale, parce que on va en parler, mais c'est vraiment une cartographie nationale des entrées de ville commerciales.
Exactement. Alors, c'est une réflexion qui s'est engagée il y a plusieurs années maintenant chez ICAD. D'une manière générale, on sent que c'est un sujet qui frémit un peu dans le monde de l'immobilier depuis un peu plus de 5 ans. C'était très important pour nous, en tout cas, de commencer à structurer une démarche. Donc, on a créé une offre, une démarche interne qui s'appelle Ville en Vue, il y a 2 ans. Une équipe également. Et donc, ça nous a permis un peu de travailler notre réflexion et d'essayer d'aller chercher des acteurs pour alimenter un peu quels étaient notre objectif, notre cadrage. Donc, on a publié un livre blanc il y a quelques mois désormais. Et pour le baromètre, l'objectif, c'était vraiment de travailler pour la première fois à une définition la plus exhaustive des sites d'entrée de ville, en tout cas des sites commerciaux, de leur potentiel, puisqu'il n'en existe pas vraiment de définition aujourd'hui au sens de l'INSEE ou au sens du code de l'URBA. Donc on avait besoin un petit peu d'améliorer la définition, et puis derrière s'est rajouté l'envie d'aller prendre le pouls des acteurs, que ce soit à la fois les décideurs locaux, je pense qu'on y reviendra plus tard, des acteurs du commerce, mais également des Français. Donc c'est un peu tout ça qu'on retrouve dans le baromètre.
Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les grands chiffres, les chiffres à retenir de ce baromètre? Et puis, bon, j'en ai dévoilé quelques-uns en introduction, mais et puis après nous dire si vous attendiez à une telle ampleur du gisement foncier, on va dire.
Alors, les principaux chiffres à retenir, c'est qu'il y a un peu plus de 3800 sites d'entrée de ville commerciaux en France. Ça représente un potentiel, une surface foncière de 80 000 hectares. Donc, effectivement, 80 000 hectares, c'est environ 120 000 terrains de football. Donc, c'est une réserve foncière assez gigantesque qui a tout son sens dans le cadre des réflexions sur des collectivités, des opérateurs immobiliers en lien avec le ZAN, la sobriété foncière.
Ouais. Le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette des sols pour nos auditeurs.
Voilà. Et plus globalement, on voit bien toutes et tous à titre personnel quand on se déplace sur les territoires de France, 100% des entrées de ville sont bien souvent composées de ces grands espaces qui ont été construits depuis les années 50-60 en lien avec l'aménagement et les modes de transport liés à la voiture. Et donc, on voit que tous les élus et tous les territoires se posent des questions, ou en tout cas commencent à se poser des questions sur le devenir de ces zones, qui sont aussi très importantes pour les acteurs du commerce, qu'ils soient investisseurs ou enseignes, qui eux-mêmes voient leur modèle économique complètement chamboulé depuis un certain nombre d'années, mais encore plus aujourd'hui avec l'explosion des acteurs du numérique.
Oui, parce qu'il faut quand même dire ce qu'il y a. C'est vrai que dans ces entrées de villes commerciales, bon, maintenant, il y a souvent des immenses parkings vides la plupart du temps. Vous l'avez dit, un changement des tendances. Les enseignes sont moins fréquentées sur ces sites. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une architecture à revoir, un écosystème à revoir.
Donc effectivement, 3800 sites, pour revenir à votre première question, 80 000 hectares, effectivement 1,6 million de logements potentiels.
Ça, comment vous l'avez calculé?
On l'a calculé avec une double méthode en regardant la taille des sites, oui. Puisque si on est sur un site d'un ou deux hectares, on n'est pas sur le même projet immobilier qu'un site de 30 ou 40 hectares, donc en oui. regardant les typologies de sites et en croisant ça avec les typologies de territoire, puisqu'effectivement sinon on est dans une métropole très dynamique, on ne va pas faire le même projet immobilier, oui. la même densité que dans un territoire très peu dynamique. Donc on a croisé les typologies de sites et les typologies de territoire, fait des modélisations par catégorie de sites qu'on a ensuite extrapolé à l'échelle nationale.
Ouais, parce que c'est énorme.
Voilà, c'est 1,6 million, ouais. dont 120 000 à horizon des 6 prochaines années sur les sites de taille modeste. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette étude, c'est qu'on avait le sentiment qu'un certain nombre de sites étaient finalement assez peu connus, documentés, assez peu débattus dans le débat public sur les entrées de ville, où on parle depuis quelques années essentiellement des très grands sites. Et qui dit très grand site, dit très grande complexité et quelques dizaines d'années de mise en œuvre pour réussir les opérations. Et on avait le sentiment qu'il y avait une partie du gisement qui était méconnue. Et effectivement, il y a environ un millier de sites entre 1 et 3 hectares qui sont à l'échelle d'un mandat municipal, notamment du prochain mandat municipal qui s'ouvre. C'est que 2% de la surface foncière totale, mais c'est 1000 sites sur lesquels les futurs élus locaux, et les Français d'ailleurs, Pierre en parlera, attendent que la transformation des entrées de ville soit un des sujets prioritaires du prochain mandat municipal. Et les Français sont même un quart à nous dire qu'ils se verraient bien habiter sur ces sites.
Voilà, alors, ça c'est dans votre baromètre, hein, 25%. Voilà,
alors que pourtant, l'imaginaire qu'on a tous les uns et les autres aujourd'hui n'est pas très favorable au fait de se dire qu'on va habiter sur des entrées de ville commerciales, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples concrets et réussis. Ouais. Mais donc on voit qu'à l'échelle du prochain mandat municipal, il y a beaucoup de choses à faire.
Et ça monte même jusqu'à 40% chez les jeunes, hein, je crois, voilà. dans votre baromètre. Hein.
Voilà. Donc on voit vraiment. Et donc c'est un vrai sujet sur fond de crise du logement qu'on connaît depuis. Toujours, presque, mais en tout cas qui est encore plus exacerbé au cours des 5 à 6 dernières années, que notamment dans les milieux populaires et chez les jeunes. Il y a une attente encore plus forte que ce soit un vrai sujet des campagnes municipales et ces catégories-là se verraient tout à fait habitées sur ces sites.
Alors ce sujet, vous l'avez dit, Pierre, est porté déjà depuis un petit moment. Il y a d'ailleurs le programme Action Cœur de Ville 2 qui l'a mis en avant, qui met en avant les entrées de ville justement.
Tout à fait. Il y a aussi le plan de transformation des zones commerciales qui a été lancé par l'État. Donc on sent que d'un point de vue politique publique, c'est un sujet qui devient d'actualité depuis 3 ans maintenant. Comme le disait Christophe, il est quand même très orienté sur les très grands sites, très prospectifs. On a voulu nous remettre le regard un peu sur les plus petits sites, plus intégrés en ville, qui sont transformables plus rapidement, qui sont aussi moins générateurs d'équipements publics, hein, ce qui est un vrai sujet aussi dans le financement en ce moment, dans les finances publiques. Donc on a vraiment en tout cas dressé ce portrait du potentiel en face justement d'une politique publique qui est en train de se dessiner. Et donc on a aussi un cadre législatif qui est sur lequel on essaye d'accompagner et d'orienter un petit peu quelles pourraient être les actions les plus concrètes et les plus efficaces possibles.
Et c'est vrai, on l'a dit, donc il y a de nombreuses contraintes, bon, on les détaillera tout à l'heure, mais là il y a vraiment 3 dimensions. Il y a la dimension résidentielle, mais il y a aussi la dimension économique et écologique également. Et j'imagine que quand on est promoteur, il faut essayer de se débrouiller avec tout ça. Comment est-ce que c'est possible à chaque fois déjà? Est-ce que ce sera possible sur chacun de ces sites identifiés?
Non, justement, on a essayé de dégager des grandes tendances. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que chaque projet sera unique.
Bien sûr.
Il n'y a pas de raison d'avoir des méthodologies d'aménagement différentes que sur des sites en friche, par exemple. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les grandes tendances qui se dégagent, c'est que plus le site est petit en métropole, plus la densification résidentielle a du sens. Puisqu'il y a un besoin, une tension sur le logement qui est importante, ces sites peuvent y répondre. Quoi qu'il arrive, l'activité économique sera toujours présente, ne serait-ce que par le commerce, puisque on a vocation, nous, à travers ces projets de transformation, à conforter une place du commerce qui est plus pérenne. On reformate.
C'est
en général, notamment les surfaces alimentaires aujourd'hui sont parfois trop grandes, ou en tout cas pas toujours bien insérées dans leur environnement urbain. Donc ça, c'est un vrai enjeu. D'ailleurs, c'est ce qui a déclenché aussi la nouvelle vague de projets, c'est que les opérateurs de commerce sont eux-mêmes désormais demandeurs. Ils étaient assez conservateurs pendant un certain nombre d'années. En tant que promoteur, on a tous regardé ces sujets et c'était plutôt les acteurs du commerce qui étaient bloquants. Désormais, ils ont avancé dans leur réflexion. Et ils nous proposent de nouveaux formats, plus urbains, plus imbriqués, plus compact aussi parfois,
d'accord,
plus serviciel, plus ouvert sur la ville, avec de la logistique du dernier kilomètre intégrée, du drive, etc. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, le commerce figure sur toutes les opérations. Et en revanche, on s'est aperçu que sur les très grands sites en périphérie, le résidentiel n'était pas toujours la bonne solution, ou pas que la bonne solution. Et c'est là où on a essayé de tirer aussi le fil sur toute la politique de réindustrialisation aujourd'hui en France. Elle nécessite du foncier. Elle va assez facilement aller sur des fonciers aujourd'hui agricoles ou naturels.
Ouais.
Et on souhaite vraiment sensibiliser aussi chaque territoire, que dans sa planification, il identifie bien quel est le potentiel de reconversion, de requalification de ses sites d'entrée de ville, y compris pour générer du foncier pour de l'activité économique productive.
D'accord, donc des usines, ce serait possible. Alors peut-être
tout
pas toutes sortes.
Compatible avec un environnement urbain, en tout cas, qui va de la logistique à l'artisanat. Aujourd'hui, il y a une tension foncière également sur ces produits-là, qui est pas d'ailleurs dans les mêmes forcément régions que là où il y a une tension foncière sur le résidentiel. Donc, on a bien voulu adresser ces deux champs de l'immobilier. Et le troisième point, c'est la renaturation. Ça, aujourd'hui, alors on s'inscrit évidemment à la fois dans le ZAN, mais dans toutes les politiques environnementales urbaines, où désormais les documents d'urbanisme nous imposent aussi un certain nombre de pleines terres, de renaturation, d'espaces libres.
On dans chaque projet
dans,
pour...
courants, dans chaque projet.
Ouais, dans chaque projet.
Plus l'environnement est dense, plus ce sera difficile, puisqu'on est quand même sur des transformations qui sont très contraintes. Mais quoi qu'il arrive, c'est une volonté très forte. On est en plus dans une déclinaison des stratégies de la Caisse des dépôts, de la renaturation à grande échelle. La transformation des sites commerciaux est un très très grand levier, puisque... on parle d'un potentiel de 10 000 hectares de renaturation, ce qui est absolument énorme. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres supports de renaturation, d'autres leviers à cette échelle dans le cadre de la transformation de la ville.
Justement, alors, est-ce qu'on peut rappeler qu'à travers ce baromètre, vous avez interrogé des décideurs de ces projets, justement, de ces zones, de ces... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en détail ?
Alors, on a interrogé 249 décideurs territoriaux. Donc, derrière un décideur territorial, on a des élus, on a les acteurs du commerce localement et les collectivités territoriales. Et d'ailleurs, on a co-construit l'étude avec 10 organisations et fédérations professionnelles, plus largement du monde de l'aménagement, du monde du commerce et du monde des territoires. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a une conjonction de points de vue... des acteurs, donc comme le disait Pierre, à la fois les acteurs du commerce voient bien qu'il est nécessaire de transformer ces espaces pour des raisons de transformation et d'évolution profonde de leur modèle économique et des attentes des consommateurs sur les espaces commerciaux. Les élus, à la fois compte tenu de la contrainte, des contraintes législatives et du manque de foncier, voient bien eux aussi qu'on a là un gisement... on a là un gisement de foncier pour faire du projet potentiel. Et puis, les Français, j'en parlais tout à l'heure, face à la pénurie de logements notamment, se voient bien ou se verraient bien habiter sur ces espaces. Et donc, dans le cadre de ces 249 territoires qu'on a interrogés, ce qui ressort, c'est que globalement, ces espaces commerciaux fonctionnent bien et vivent bien aujourd'hui. Ça pourrait être une idée reçue qu'on aurait, qu'il y a beaucoup de friches commerciales, qu'il y a beaucoup de vacances. Mais globalement, ces espaces, on considère qu'ils vivent bien parce qu'ils sont faciles d'accès. Il y a une grande diversité de l'offre commerciale, des bonnes enseignes. Mais c'est pas parce qu'ils vivent bien qu'on nous dit qu'il faut rester sur un statu quo. Donc, ce qu'on nous dit également, et 9 décideurs territoriaux sur 10 nous le disent, qu'il est nécessaire de les faire évoluer à l'avenir.
Bien sûr. Oui, parce qu'ils sont sous-exploités, en fait.
Parce qu'ils sont en partie sous-exploités, ou en tout cas que tout le monde voit bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que quel que soit le point de vue qu'on a, investisseurs du commerce, enseignes, élus, collectivités territoriales, il y a quand même globalement un consensus sur le fait de se dire qu'il faut faire évoluer ces sites.
Bien sûr.
Même si les difficultés sont nombreuses et il ne suffit pas globalement de se dire qu'on est tous d'accord pour faire quelque chose pour ensuite y arriver.
Alors je crois que vous avez identifié des scénarios de transformation, il y en a 12 si je ne me trompe pas.
Il y en a 12,
pourquoi
effectivement,
12,
qui croisent les trois catégories de sites, les sites entre 1 et 3 hectares, les sites de 3 à 15 hectares, les sites de plus de 15 hectares, et quatre catégories de territoires, très dynamiques, dynamiques, peu dynamique, pas du tout ou très peu dynamique, donc 3 x 4, 12, donc effectivement ça fait 12 typologies de sites et de contextes dans lesquels on peut se trouver, qui amènent à imaginer des sites, enfin des scénarios de transformation différenciés.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé en tout cas chez ICAD dans le cadre de la démarche Ville en Vue, plus de 300 études urbaines sur ces sites, donc à peu près 10% des sites commerciaux en France. Et on s'est servi vraiment de ces chiffres, ces data qu'on a accumulées pour venir conforter les 12 scénarios. Donc, c'est-à-dire par typologie de projet, par typologie de territoire, on a été capable aussi de donner un cadrage sur la densité qui est attendue, la mixité résidentielle, fonctionnelle, les typologies de format de commerce. Donc, on a pu être assez précis grâce justement à tout ce qu'on a pu engranger comme matière et discussion avec les exploitants commerciaux.
C'est vrai qu'on parle beaucoup de mixité d'usage, de mixité, alors j'entends par là le résidentiel, le commerce, je sais pas, vous pensez peut-être à des établissements publics, parce qu'on a vu qu'il y a un mix de public et de privé à travers ce baromètre. Elle a jamais été aussi forte, cette mixité d'usage ? Les transports en commun, enfin, il y a plein de choses.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une réflexion de transformation urbaine. On voit aujourd'hui une grosse réflexion sur la transformation de bureaux en logement, qui est plutôt vraiment à une échelle du bâtiment. Là, on se doit, et c'est vraiment un travail aussi d'urbaniste, d'opérateur urbain, d'aménageur, de réfléchir la transformation de ces sites comme vraiment de véritables nouveaux quartiers, donc dans toutes les dimensions. Et là, c'est vrai que la mixité d'usage, le sujet de l'accessibilité, de la mobilité, la réversibilité à terme des espaces verts, de la vie de ces quartiers demeure extrêmement importante. Et il y a un point aussi, alors ça, c'est moi, ça fait 13 ans maintenant que je travaille dans les grands projets. J'ai essentiellement travaillé sur des friches ferroviaires, industrielles. Là, on travaille quand même sur des sites qui, pour certains, ont plusieurs millions de visiteurs par an. Et ce sera le cas, y compris dans la période de chantier, puisqu'il y a des phases transitoires qui nécessitent, mais qui accompagnent. Sur site occupé, avec une continuité d'activité, des opérations à tiroir assez complexes. Et donc, en fait, ce seront des sites qui sont déjà attractifs, qui le resteront pendant le chantier et qui, par chance aussi, lorsqu'on va livrer ces nouveaux quartiers, seront déjà inscrits sur la carte, seront des lieux, une destination. Et ça change tout quand même par rapport à la manière de faire la ville. C'est qu'on se doit d'accompagner tout ce flux de visiteurs, d'usagers, de clients de services publics, de clients de services privés, de consommateurs. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour nous. D'ailleurs, on élargit un peu les expertises qui nous accompagnent, puisque on avait une approche assez technique de la création de ces nouveaux bâtiments. Là, il y avait des programmistes qui nous accompagnaient. Là, on va vraiment chercher des experts aussi qui sont capables d'aller à la rencontre des clients, des utilisateurs aujourd'hui du site, pour leur demander ce qu'ils veulent demain. Donc ça, c'est de nouvelles manières de faire la ville aussi qui sont assez intéressantes.
Alors, en revanche, y a des réels freins. Vous l'expliquez aussi dans le baromètre et ça se comprend. C'est vrai que sur le papier, c'est très beau, mais j'imagine que sur le terrain, c'est toujours plus complexe. Alors, j'avais noté des chiffres. 89% des décideurs territoriaux que vous avez interrogés veulent transformer les entrées de ville, mais seulement 26% des territoires ont les compétences pour le faire. Pourquoi ce décalage ?
On est sur des sujets éminemment complexes. Donc effectivement, il y a une volonté que les choses évoluent. Et après, quand on regarde en détail, il y a assez peu de territoires qui ont commencé à travailler sur ces sujets. Et encore moins de territoires qui ont des projets concrets en cours. Et effectivement, encore moins de territoires qui jugent avoir les compétences nécessaires pour porter des opérations qui sont complexes à plusieurs points de vue. C'est-à-dire que comparativement à une friche qui est déjà compliquée à traiter, là, on va être sur de la transformation de sites occupés, sur des sites multipropriétaires, multi-occupants. Et donc, ça nécessite une ingénierie juridique et financière et une capacité à traiter le temps long et donc à sauter les échéances électorales régulières, donc à structurer une gouvernance qui associe le public, le privé, qui arrive à tenir le cap malgré les échéances municipales. Donc ça, c'est un des premiers freins, c'est la capacité à tenir le temps long. Et c'est pour ça qu'on voulait aussi beaucoup insister sur les sites de taille relativement plus petite, parce que quelque part, il faut déjà réussir à faire ses preuves sur des sites petits, montrer que ça marche, montrer que on est.
Parce que les Français sont prêts. Vous n'êtes pas sûr du résultat. Enfin, qu'est-ce qu'on appelle portage sur le temps long ?
C'est-à-dire qu'on sur des sites de 25 à 30 hectares, on est sur un quart de siècle, sur 25 ans, entre le moment où on va commencer à réfléchir et le moment où on aura fini la dernière opération immobilière du dernier bâtiment. On est sur des opérations très longues et donc ça suppose, et sur des terrains qui sont maîtrisés par une diversité de propriétaires avec une diversité d'occupants. Donc c'est comment est-ce que quand je suis un territoire, je structure des véhicules publics, privés, qui dépassent les simples personnes qui sont là à l'instant T, c'est-à-dire qui survivent aux personnes, qu'elles soient élues, territoire ou dans les entreprises privées. Donc comment je structure des véhicules juridiques qui tiennent le cap. La deuxième difficulté, c'est comment on assure le modèle, l'équilibre économique de l'ensemble. Ouais. Donc ça, c'est un gros sujet. Ça, c'est quand même un gros sujet. Et donc ça, c'est évidemment sur fond de tension sur les finances publiques et sur le fond d'un mouvement où on ne refera pas la ville en 2030 comme on l'a fait dans les années 2000. C'est un sujet éminemment important. Puis le troisième frein, c'est bien souvent sur un certain nombre de sites, c'est la multiplicité des propriétaires. Parce que plus vous avez de propriétaires sur un site,
plus c'est compliqué.
Plus Pierre en parlait sur des opérations à tiroir, plus la capacité à mettre tout le monde d'accord au même moment sur le même projet est faible.
À titre d'exemple, on le voit ça lors d'assemblées générales de copropriétaires, par exemple.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est puissance 10. Ouais.
Juste, quand vous... Alors là, j'ai retenu les principaux freins, donc le portage sur le long terme, l'équilibre économique, justement la multiplicité des propriétaires. Quels leviers, quels outils pourraient être mobilisés justement pour passer à l'action, pour essayer de déverrouiller ces freins? Je pense notamment peut-être à l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable?
On a commencé à réfléchir très très en amont, notamment dans cette phase de diagnostic, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui revient aussi dans notre baromètre, c'est la nécessité de la planification.
Ouais.
Comment les territoires, pour ces projets très complexes de long terme, vont devoir aussi un petit peu s'organiser pour pouvoir planifier et décider quelle va être la création, enfin le potentiel de création de logements et de fonciers économiques sur les zones commerciales. C'est quelque chose pour nous qui se planifie sur 20 ou 30 ans. Mais ça nécessite d'aller travailler beaucoup de data. C'est déjà identifier les sites, comme on l'a fait. Donc on pourra mettre aussi à disposition d'un certain nombre de territoires nos travaux, mais il s'agit d'aller plus loin. Et derrière, c'est d'identifier quelles sont les dynamiques économiques et commerciales de chacun des sites. Aller chercher les multipropriétaires, les multi-exploitants. Et ça, on se rend compte que l'intelligence artificielle pourrait aussi peut-être nous aider dans cette gestion de la data.
Donc récolter la data?
Exactement, ou peut-être commencer à, je ne suis pas un expert, mais à la traiter, à l'orienter, pour qu'en tout cas les collectivités puissent un peu mieux planifier. Après, je sais que c'est aussi le travail de la CET d'accompagner les collectivités sur ces points-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est face à un mouvement d'ampleur et il va falloir des outils pour accompagner les territoires dans cette transformation-là. Donc dans une première étape très prospective de planification. Et derrière, on doit mettre en place, et nous, nos outils changent totalement aussi. C'est que là, on crée des véhicules de portage. Donc là, c'est des sociétés d'investissement. Donc on n'est plus seulement promoteur, acteur de la transformation. On est également sur un certain nombre de sites, 9 depuis le début de l'année. On devient propriétaire d'une partie de ces sites. Donc on a une centaine de locataires commerciaux. Donc on apprend à les connaître, à comprendre comment ils fonctionnent.
Bien sûr.
Et c'est une étape qui est aussi assez indispensable pour être légitime derrière, à être l'acteur de la transformation. Donc, on parle souvent de chaîne de valeur, des métiers de l'immobilier. Là, on sent qu'elle s'étire sur ce type de site. On n'est plus seulement sur une étape de promotion, mais bien sur une étape de portage, préparation, transformation. Et puis derrière, il y a toute la pérennisation. Comment on fait des ensembles immobiliers imbriqués, complexes, multiprogrammatiques, qui vont fonctionner avec des acteurs qui sont là aussi dans le temps pour accompagner le commerce. Et donc là, je pense, on travaille avec la Banque des Territoires, avec CDC Habitat, qui sont aussi co-investisseurs avec nous sur ce type de site et qui derrière s'inscrivent sur le temps très long, plus de 50 ans, sur le portage de...
C'est des acteurs solides qui
exactement.
Forcément...
Et il y en a besoin parce que les acteurs du commerce en ce moment vivent des changements et ils ont besoin d'être accompagnés par des acteurs qui s'inscrivent vraiment dans le temps long sur la ville, sur ce type de projet.
C'est vrai qu'il y a des mutations aussi sur le marché du commerce. Ce baromètre, il a été juste réalisé sur combien de temps? Vous avez mis combien de temps à le sortir?
8 mois environ, entre le moment où on a commencé et sa publication fin mai. Effectivement, on s'est appuyé sur 10 organisations, fédérations professionnelles qu'on remercie à nouveau pour leur implication. 1000 Français qu'on a interrogés, 249 décideurs territoriaux et un certain nombre de données d'études déjà publiées et puis une modélisation de 12 scénarios. Effectivement, on en ressort aussi 4 priorités d'action pour les territoires et les élus. La première étant de se dire travaillons en priorité les sites de entre 1 et 3 hectares. Ça fait quand même 1000 sites dont les prochains exécutifs municipaux peuvent se saisir et peuvent espérer des retombées à la fin de leur mandat, 6 ans plus tard. La deuxième priorité, nous, qu'on identifie, c'est de se dire pour les très grands sites complexes, il faut absolument structurer une gouvernance pérenne. Les sujets sont trop compliqués pour faire des études, des petites études un peu spot. Il faut vraiment créer territoire par territoire des véhicules d'investissement pérennes. La troisième priorité, nous, qu'on identifie, c'est de se dire, sur les très grands sites compliqués, il ne faut pas s'interdire de détacher des bouts de foncier, notamment pour faire du développement économique, parce que si on attend de tout planifier, de se mettre d'accord, de faire évoluer les règlements d'urbanisme, en fait, pendant 15 ans, il ne se passera rien. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur sur certains sites de détacher des parcelles pour accueillir de l'activité économique. Et puis, le sous-jacent général, c'est comment est-ce que le secteur privé, le secteur public arrivent à travailler ensemble.
C'est quand même la base.
C'est quand même la base. Et là, c'est encore plus la base, puisque contrairement, je reviens sur l'exemple qui était, c'était des friches industrielles. Là, on a des propriétaires qui sont là, on a des locataires qui sont là, on a des centaines de milliers, voire des millions de visiteurs qui fréquentent ces sites. Et donc, ça ne peut se faire que si tout le monde y trouve son compte.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est un vrai sujet dans la transformation notamment des sites importants que l'élu, la collectivité, le développeur, l'aménageur, le promoteur, le propriétaire, les locataires, ils trouvent leur compte pour des raisons différentes. Mais globalement, chacun peut trouver des bénéfices dans une transformation de ces sites.
Est-ce que vous avez un retour sur les attentes des consommateurs? Quels sont les éléments les plus attendus? Est-ce que ce sont les espaces verts, la mobilité douce, les commerces de proximité? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de tous ces sujets-là. Quelles sont les attentes prioritaires, on va dire, de la part des consommateurs?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté pour eux. Enfin, ces polarités commerciales, elles sont extrêmement importantes dans la vie de beaucoup de Français. Je pense notamment aux habitants des quartiers pavillonnaires, des grands ensembles, aussi de toutes des zones rurales hein, qui sont aussi assez dépendantes. C'est un peu leur cœur de ville. C'est là où ils ont des services, ils retrouvent la poste, souvent des maisons médicales. Donc il y a quand même un vrai enjeu de venir conforter, ils ont envie d'être rassurés sur le fait qu'ils vont toujours retrouver cette diversité de services et de commerce du quotidien. Et après, par contre, ce qu'on a vu aussi dans les tendances qui sont assez fortes, c'est qu'ils veulent retrouver des espaces beaucoup plus agréables, un peu moins fermés sur eux-mêmes, qui puissent être accessibles aussi potentiellement en vélo, en transport en commun ou à pied. Là où aujourd'hui, c'est des zones qui sont assez peu sécurisées pour les transports en mode doux. Et ils veulent retrouver aussi plus de loisirs, plus d'aménités. Donc ça, c'est quelque chose aussi, on est de moins en moins quand même dans le schéma très tunnel de uniquement prendre sa voiture, aller se garer sur un grand parking, le caddie, oui, etc. Il y a une volonté de s'approprier, de passer un petit peu plus de temps aussi sur ces lieux.
Donc il y a des parcours, j'imagine, peut-être penser à des parcours.
Exactement, ça c'est une très grosse complexité de ces quartiers. Hein. Il y a des flux qui sont multiples, que ce soit de la logistique, de la livraison, il y a des flux sécurisés aussi pour l'argent, des employés, les habitants qui y travaillent et tout un tas de typologies d'usagers et de consommateurs qui viennent pas aux mêmes heures, pas pour les mêmes raisons, qui restent pas forcément aussi longtemps sur le site et avec des modes de transport très variés. Donc ça, on l'intègre très en amont de ces projets, mais c'est sûr que ça prend une place assez importante dans le dessin urbain dès l'amont.
Et puis on voit que ce qu'attendent beaucoup les Français et donc les consommateurs et finalement un peu nous-mêmes, c'est la qualité de l'expérience qu'on a sur le site.
Bien sûr.
Le rapport à la nature, le rapport à l'urbain, la mobilité, à une notion de loisir, de service. Et on voit à quel point le monde du commerce, les enseignes d'habillement sont en difficulté les unes après les autres et un certain nombre de secteurs du commerce plient face aux acteurs, notamment étrangers, du e-commerce. Donc, il y a un vrai sujet de réenchanter l'expérience sur ces sites, et qu'elle soit plus urbaine, plus servicielle, plus de loisirs, plus d'événementiel. Et effectivement, ça ressemble de plus en plus à des quartiers plus denses. L'une des difficultés, en tout cas l'un des freins sur lesquels il faut faire attention et qui a été exprimé dans le baromètre, c'est comment est-ce qu'on gère la concurrence avec le centre-ville.
Bien sûr.
Dans le cadre des opérations de transformation, puisqu'en parallèle de ces réflexions sur les entrées de ville,
oui, on essaye de renaturer,
redynamiser les centres-villes. Depuis des années, beaucoup d'argent public a été injecté dans les centres-villes. Et donc, une des difficultés potentielles, ou en tout cas qui est remontée par les territoires, c'est comment est-ce qu'on gère le risque éventuellement de concurrence entre une entrée de ville transformée, qui n'est pas un centre-ville bis,
bien sûr,
et le centre-ville dans lequel on injecte des millions d'euros depuis 15 ans pour le redynamiser. Mais ça, ça va se traiter territoire par territoire.
Après, vous l'avez dit, le loisir, c'est plutôt quelque chose de... Et je confirme hein, votre discours. J'ai animé plusieurs tables rondes au SIEC, au salon immobilier des espaces commerciaux. Et c'est vrai que c'était un peu ce qui ressortait de chaque table ronde. C'était qu'on avait besoin de loisirs pour dynamiser hein, tout ce qui était... centres commerciaux, que les Français étaient dans cette attente-là. Ils venaient plus juste faire des courses, en fait. Ils viennent se divertir. Ils ont besoin de ça. Et ça rejoint exactement ce que vous dites. Hein. C'est exactement ça. Et ça rentre peut-être moins en concurrence avec les centres-villes. Là, je pensais à
En tout cas, si on est élu local, les élus locaux sont très vigilants sur ce point. De ne pas recréer des centralités bis dans un contexte où il est déjà très difficile de faire vivre les centres-villes. Donc ça sera... ça va jouer projet par projet pour trouver la bonne articulation à l'échelle de chaque agglomération.
Alors, un mot pour conclure peut-être. À quoi ressembleront justement ces entrées de ville en 2040, selon vous ?
Ce sujet, on est en train de l'expérimenter. Je crois que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est vrai que ça reste encore expérimental.
Ouais.
Donc nous, on a besoin aussi, et là on est aussi un certain nombre d'acteurs de l'immobilier à essayer de franchir le cap, on a besoin de créer des références, on a besoin de créer un nouvel imaginaire. Donc ça, c'est aussi le travail peut-être des prochains baromètres, puisque ça sera des publications annuelles, c'est d'arriver à projeter un petit peu plus les acteurs de l'immobilier, les collectivités et les citoyens aussi sur ce que vont devenir ces zones. Et ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est des zones qui sont assez clés, elles sont en proximité pour la plupart d'aménités naturelles assez exceptionnelles. Hein. On est parfois en bord de fleuve, en bord de forêt, en bord de mer.
Ouais.
Donc on a des sites qui sont assez extraordinaires. Donc il va falloir redonner un peu toute cette dimension magique de l'environnement urbain à ces sites. Et puis encore une fois, derrière, avoir la chance de créer de nouveaux quartiers qui sont déjà inscrits sur la carte, déjà très attractifs et accessibles. Et ça, quand on voit, moi, c'est ce qui fait que ça explique un peu, je pense, la bonne surprise qu'on a eue sur l'enquête Ipsos et le nombre de Français, notamment de jeunes, qui se projettent à habiter sur ces zones.
Oui.
C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un attachement. On y retrouve énormément de choses positives. Et dans l'imaginaire, on sent qu'il suffit de venir vraiment apporter une image à ça, une qualité d'habiter, une qualité de vivre, pour que les gens sautent le pas et se projettent facilement sur ces sites-là. Maintenant, le consensus aujourd'hui, et c'est, je pense, la principale conclusion du baromètre, c'est que tous les acteurs, quasiment, sont persuadés qu'il faut les transformer. La question là qui s'ouvre pour nous et qui est assez vertigineuse, c'est le comment. Comment le déployer à grande échelle? Donc les expérimentations sont la première étape, notamment sur ces petits sites. Mais derrière, il va falloir continuer très activement à mettre tous les acteurs autour de la table pour aller chercher les recettes pour atteindre ces 1,6 million logements en zone tendue qui sont en ordre de grandeur presque 40 à 50% du besoin estimé de création de résidences principales à 2050. Donc c'est un enjeu qui est majeur pour la crise du logement qu'on traverse.
Et puis quelque part, enfin, ces sites en 2040, on a quand même en France des villes assez magnifiques, d'une manière générale, des centres-villes souvent anciens avec une architecture de qualité. C'est aussi l'occasion de faire du beau. Parce qu'effectivement, l'équilibre économique, la création de logements, l'urbain, la nature n'excluent pas le fait non plus de reconstituer des sites d'une très grande qualité et donc d'avoir une beauté de ces entrées de ville peut-être renouvelée et avoir une architecture, un urbanisme qui se rapproche de la qualité de nos centres-villes.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas à vous deux, Christophe Lagnier et Pierre Mignon. Et je rappelle donc que ce baromètre est disible hein, sur le site d'ICAD, je crois. Et
Un peu partout, je pense que si vous tapez sur Google,
voilà,
vous allez le trouver. Quoi.
Voilà, eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Carrément Immo. À très vite.